Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag. Traité Eruvin, page 45, DAF Memhe.
Bonjour à tous, Chazara de Eruvin Memhe. On a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui partait en guerre peut revenir en ville. La Gemara demande, puisqu'il n'y a pas marqué de précision, donc il pourrait se déplacer même plus que 2000 amas. Or, dans la Récha, on a dit qu'on ne pouvait se déplacer que 2000 amas. À ce sujet, la Gemara répond que le retour de quelqu'un qui est parti en guerre, c'est bien sûr limité à 2000 amas, mais le chidouche de la fin de la Mishnah, c'est de nous enseigner qu'il peut revenir avec ses armes, avec son klezain. La Gemara demande quelle est la question. Peut-être que quelqu'un qui est sorti pour faire la guerre, il a le droit de revenir, même de plus de 2000 amas, sachant qu'il est parti et qu'il est en danger. La Gemara nous dit en vérité, ça n'était pas la question du départ. On a une contradiction entre deux braïtot. Il y a marqué dans une braïta clairement que même quelqu'un qui est parti en guerre ne peut revenir que dans les 2000 amas, mais pas plus. Comment est-ce qu'il va s'arranger avec notre Mishnah? Réponse, notre Mishnah ne lui permet pas de revenir plus de 2000 amas, elle lui a seulement permis de revenir avec son arme. C'est la première question, la première réponse. Deuxième réponse que la Gemara nous ramène, quelqu'un qui est parti en guerre, et donc il faut savoir qui est-ce qui a gagné cette guerre, si c'est le peuple juif qui a gagné cette guerre, donc il n'y a pas de danger, donc il peut rester, et donc il n'a pas le droit de traverser plus de 2000 amas. Par contre, si c'est les non-juifs qui ont gagné la guerre, donc il y a danger, donc il ne peut pas dépasser les 2000 amas. La Gemara nous ramène une braïta où il est marqué que si jamais des non-juifs attaquent une ville juive, si c'est pour une histoire d'argent, on ne peut pas être Mechalel Shabbat. Si c'est pour tuer, on a le droit d'être Mechalel Shabbat. Une ville qui est frontalière, sachant que c'est la porte du pays et qu'il y a un danger pour tout le monde, même si c'est que pour l'argent, on a le droit d'être Mechalel Shabbat. La ville de Néardéa est aussi définie comme une ville frontalière, puisqu'elle était la première ville où il y avait beaucoup d'exilés d'Ebné Israël. Donc on peut être Mechalel Shabbat en tant que ville frontalière. Et on ramène l'histoire de David Ameler qui est parti en guerre parce que les gens de Keïla étaient attaqués. Ils étaient attaqués pour de l'argent. David Ameler a posé la question au Rive Toumim et on lui a dit d'y aller. La Gemara nous dit qu'il n'a sûrement pas posé la question est-ce que c'était Moutar ou Assour, puisque pour cela on ne demande pas au Rive Toumim, on pose la question au Beth Din. Il a demandé la question est-ce qu'il allait gagner, et c'est ce qu'on lui a répondu, c'est qu'il allait gagner. La Mishnah nous amène un cas de quelqu'un qui était... Qui n'avait pas décidé de faire une acquisition de troum, c'est-à-dire qu'il n'était pas conscient qu'il était proche d'une ville. Et puis au matin, il s'est rendu compte qu'il était proche d'une ville. Rabbi Meir nous dit que ça n'est pas un kinyan, et donc il ne peut pas se déplacer. Rabbi Dan nous dit qu'il peut se déplacer dans la ville. Et il ramène une réponse de Rabbi Tarfon. Agma nous raconte l'histoire de Rabbi Tarfon qui s'était assoupi. Il n'était pas conscient d'où il se trouvait. Et puis pendant Shabbat, les gens lui ont dit « Mais tu es juste à côté de la ville, rentre en ville. » Il est rentré en ville. Il a donné shiur. Donc nous dit « Ravuda, tu vois que Rabbi Tarfon pense comme moi qu'il y a acquisition de Shvita. » À ce sujet, la Gemara nous réfute de deux manières. Premièrement, peut-être qu'il était, le Beth Amidrash était dans ses 2000 amot et c'est pour ça qu'il est rentré dans ses 2000 amot. Deuxièmement, peut-être qu'il avait, oui, l'intention de faire l'acquisition du trou, mais c'est pour ça qu'il est rentré en ville. La Mishnah d'après nous ramène une marloquette au sujet de quelqu'un qui était en train de dormir. Est-ce que le fait qu'il est en train de dormir, c'est un problème pour faire une acquisition du troum? Rabbi Yochanan ben Uri nous dit qu'il n'y a aucun problème. Rachamim nous dit qu'il n'a que Arba Amot, et la Gemara va expliquer plus tard Arba Amot de chaque côté, c'est-à-dire 8 Amot. Et à ce sujet, Rabbi Eliezer nous dit les 4 Amot qu'on donne, on a 2 Amot de chaque côté, c'est-à-dire au centre du cercle. D'après Rabbi Yehuda, on a 4 Amot. On peut choisir de quel côté vont se trouver ces 4 amot, et après avoir fait le choix, on ne pourra pas changer d'avis, ça sera de ce côté-là. Et on ramène à ce sujet, quand quelqu'un n'a que 4 amot en dehors du troum, et qu'il est à côté de lui quelqu'un qui a aussi que 4 amot du troum, dans l'endroit où les 4 amot se conjuguent, se rencontrent, on peut aussi échanger à cet endroit, mais on n'a pas le droit de faire passer quelque chose qui était dans mes premières 4 amot vers les 4 amot de l'autre. On peut simplement s'asseoir et manger au milieu ensemble de la même manière. Si on est 3 personnes, alors la personne du milieu pourra s'associer avec celle qui est de deux côtés, mais les deux personnes qui sont à l'extérieur ne pourront pas s'associer. Rabbi Shimon ramène à ce sujet, et la Gemara expliquera plus tard pour quel est l'intérêt de ramener cet exemple, trois cours A, B et C, B au milieu, A et C sur les côtés, B et A peuvent manger ensemble, B et C peuvent manger ensemble, mais A et C ne peuvent rien partager. La Gemara pose une question au sujet de Rabbi Yochanan ben Uri qui nous dit que on peut faire l'acquisition d'un troum même quand on est endormi. Est-ce que ça voudrait dire qu'un ustensile qui est efker, qui n'a donc aucun propriétaire, est-ce qu'il pourrait lui aussi faire l'acquisition d'un troum? Sachant que quelqu'un qui est en train de dormir n'a aucune intention, donc on voit que l'intention n'est pas importante, donc un ustensile qui n'a pas de propriétaire, donc sans aucune intention, est-ce qu'il a aussi un kinyan de shvita ou pas? Si on dit que d'après Abu Hanan Ben Uri, même dans un ustensile, il y a acquisition, alors pourquoi est-ce qu'il a préféré nous annoncer son chidouche dans le cas d'une personne et non pas d'un ustensile? Tout simplement pour nous dire que même dans le cas d'une personne, on pourrait comprendre qu'il y a une intention potentielle et donc il y a acquisition de Troum, ça aurait pu marcher. Vien Chachamim nous disent que ça ne marche pas. Ramène la Gemara une preuve à ce sujet. Il est marqué que la pluie qui est tombée à la veille de Yom Tov, elle a 2000 amas. Donc on voit qu'il existe un Tana qui nous dit que même quelque chose qui n'a pas de propriétaire a oui un Troum. Donc forcément, c'est Rabbi Yochanan ben Uri puisqu'on ne connaît personne d'autre qui pourrait s'associer à cet avis. La Gemara nous dit non, peut-être que non. Peut-être on parle de la pluie qui est tombée à côté d'une ville. Et les gens de la ville se sont trouvés, se sont dit, on va utiliser cette eau. Et puisqu'ils ont, entre guillemets, décidé d'utiliser cette eau, donc c'est ça qui a fait l'acquisition du Troum. La Gemara ramène une seconde preuve. On voit une contradiction au sujet d'un puits qui appartient au public. D'un côté, on voit que il a 2000 amas. D'un autre côté, on voit que ça dépend de la personne qui va puiser. Donc, en vérité, il n'y a pas de Troum. Forcément, donc, la Gemara conclut que Rabbi Hanan Ben Uri pense que oui, un ustensile sans propriétaire, on peut faire acquisition. Et la Gemara rajoute, quand tu as réfuté ma preuve initiale, à savoir la pluie qui tombe proche de la ville, il y a marqué qu'il a 2000 amas, tu m'as dit que c'était à cause des gens de la ville. Ça n'a aucun rapport. Si c'était à cause des gens de la ville, cette eau n'aurait pas 2000 amas de l'endroit où elle se trouve, elle aurait 2000 amas par comme les gens de la ville et non pas de l'endroit où elle se trouve. Donc la conclusion, c'est que d'après Abu Hanan Ben Uri, il existe et la possibilité d'avoir un troum pour un ustensile, même s'il n'a pas de propriétaire. La Gemara pose la question au sujet de la pluie qui est tombée pendant Yom Tov. On l'a définie comme Keraglé Koladam, c'est-à-dire n'importe qui va l'utiliser aujourd'hui, eh ben, il pourra l'utiliser dans son troum à lui. Pourquoi est-ce que cette pluie-là n'a pas de Shvita dans l'océan, sachant que d'après Rabbi Eliezer dans Ta'anit, toute l'eau de pluie, le point de départ de cette eau, c'est l'eau de l'océan. Donc elle devrait avoir une acquisition de troum dans l'océan. La Gemara demande. La Gemara répond que, en vérité, cette eau était déjà là avant la veille de Yom Tov, il y avait déjà des nuages. La Gemara nous dit, mais qui nous dit que c'est ces nuages-là qui ont fait tomber la pluie? La Gemara nous dit, premièrement, possible qu'il a un siman, qu'il reconnaît la taille et la forme du nuage. Deuxièmement, c'est vrai, il y a un safek. Et puisque c'est un safek des rabanan, puisque tous les groupes c'est des rabanan, donc la coula, donc peut-être que ce nuage était là, peut-être pas, on est mekel. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas acquisition dans l'océan? Tout simplement parce que les nuages étaient déjà là. La Gemara demande, ok, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas acquisition de shvita dans le nuage, dans le ciel? Est-ce que ça serait une preuve à la question qu'on s'est déjà posée? Est-ce qu'il y a un interdit de troum au-dessus des diamotes? La Gemara nous dit non. Au-dessus des Dithfarchim, pardon. La Gemara nous dit non, il n'y a pas de preuve. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'acquisition de troum? Puisque l'eau en vérité n'est pas conséquente, puisqu'elle est invisible. La Gemara nous dit si c'est invisible, elle est avalée dans le nuage, dans le langage de la Gemara, bliée. Alors c'est défini comme nolat, c'est-à-dire que quand la pluie tombe, on considère qu'on a une nouvelle création, quelque chose de nouveau qui arrive devant nous, et on sait que Nolad est interdit d'utilisation pendant Shabbat. Comment est-ce que tu me dis que cette eau peut être utilisée? La Gemara nous dit, en vérité, la vraie réponse, c'est que l'eau, elle est en mouvement, et puisqu'elle est en mouvement, elle ne peut pas avoir l'acquisition. Et donc, on n'a plus besoin de dire qu'il y avait déjà des nuages à la veille de Shabbat. Tout simplement, puisque c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, il ne peut pas y avoir d'acquisition de Troum. On a donc vu aujourd'hui plusieurs choses. Quelqu'un qui sort, qui part faire la guerre et qui revient, deux explications, est-ce qu'il a le droit de dépasser les 2000 amas ou pas? Après la première, il n'a pas le droit, mais il a le droit de revenir avec ses ustensiles, puisque se revenir sans ses armes, c'est quelque chose de dangereux. La deuxième explication, c'est qu'il peut revenir même au-dessus des 2000 amas quand on est en danger, quand on n'a pas gagné la guerre. À ce sujet, la Gemara Ben Braïta, des non-juifs qui font la guerre contre une ville juive, on peut être Mechalel Shabbat quand c'est pour Nefashot. Quand c'est pour l'argent, on ne peut pas. On peut être Mechalel le Shabbat quand c'est une ville frontalière. Et là, l'histoire de David, la première Mishnah parle d'une machloket, d'un kinyan de Hérouv sans intention. La deuxième, d'un kinyan de Hérouv dans quelqu'un qui était endormi. Et la taille du Hérouv qu'il aurait s'il n'a pas les 2000 amas. Et on a vu une machloket au sujet de Rabbi Yochanan, un safek au sujet de Rabbi Yochanan Ben Uri. Est-ce que l'acquisition du Troum se fait seulement pour un homme sans intention, même pour un ustensile, conclusion même pour un ustensile? Et pourquoi est-ce que de l'eau qui tombe pendant Shabbat n'a pas de problème de Troum? Tout simplement parce qu'elle était en mouvement, elle n'a pas de problème de Troum. À demain, Bezrat Hashem, n'oubliez pas de faire Chazara.